Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'une manipulatrice, Cindy Sénoc. En 2009, en Moselle, son compagnon Serge Martz est assassiné. Elle ne l'a pas tué elle-même, hein. Elle a les mains propres. Mais l'enquête va démontrer qu'elle a remonté l'assassin comme une pendule. Et à la fin, vous verrez, la morale est sauve. Une histoire que nous débrieferons avec maître Dominique Rondu du barreau de Metz. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Voilà comment, le mercredi 27 mai 2009, aux alentours de 17h, une très jolie jeune femme, très jolie, qui s'appelle Cindy Sénoc, vient expliquer aux policiers du commissariat de Moyeuvre-Grande en Moselle que son compagnon Serge a disparu. D'habitude, il vient passer toute la journée du mercredi avec nous. C'est-à-dire avec ses enfants, enfin, avec nos enfants. On a deux enfants de 2 et 4 ans. Et puis là, il n'est pas venu. Je l'ai appelé 100 fois, il répond pas. Ses amis n'ont pas de nouvelles. J'ai appelé les hôpitaux, il n'y est pas. Je suis inquiète, quoi. Pardon de vous couper, mademoiselle. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Donc, monsieur Serge Martz, c'est ça, est le père de vos enfants, mais vous n'êtes pas marié et vous ne vivez pas ensemble. Et il vient le mercredi garder les enfants. Oui, c'est ça. C'est ça, on n'est pas encore mariés. En ce moment, Serge habite chez sa mère. Mais c'est temporaire, hein. On va se marier et on va revivre ensemble. Là, on fait juste une pause, quoi. Une pause. Ok. Ça arrive, ces choses-là. Les policiers enregistrent donc un avis de disparition inquiétante. Et après, Cindy Sénoc donne du change. Ah, ça, pour donner du change, elle donne du change. Avec son frère et la fille du disparu, d'un premier mariage, elle va coller des affichettes un peu partout, avec une photo de Serge et un numéro de téléphone à appeler. Et ensuite, elle fait le tour de tous les endroits où il avait ses habitudes. Serge ? Ah non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, non ? Désolé. Elle s'active. Et elle s'active encore quand, le lendemain midi, deux pêcheurs vont planter leur gaule sur les bords de l'étang des Vieilles Eaux de Saint-Rémy, à Voipy. Et au milieu de l'étang, ils voient un corps qui flotte, un costaud avec un t-shirt et un pantalon de survêtement. Les flics débarquent, ils font ramener le corps, rien pour l'identifier. Bon, à mon avis, c'est un suicide, hein. Un de plus. Il faut que je vous explique. Cet étang est un étang à suicide. Plusieurs personnes se sont déjà donné la mort ici. Donc un de plus. Dis donc, regarde, t'as vu ses pieds? Il est pieds nus. Le mort n'a pas de chaussures. Et on n'a pas retrouvé de chaussures sur la berge, hein. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça, les flics peuvent le vérifier tout de suite. On ne peut pas venir de la route jusqu'au lac pieds nus. C'est impossible, sauf à avoir 2 centimètres de corne sous les pieds. Il y a du gravier, il y a des ronces, de la boue. Impossible. Et donc le monsieur n'est pas venu mourir ici tout seul. On l'a amené ici. On l'a tué. Et ça se confirme quand, dans les broussailles, les policiers tombent sur des clés de voiture. Or, alentour, il n'y a pas de voiture. Ça n'est pas un suicide. C'est un meurtre. Et maintenant, il faut connaître le nom du mort Dardar si on veut se lancer à la recherche de son assassin. Et le seul indice qu'il porte sur lui, c'est une chevalière, une grosse bague avec des initiales. S.M. Il n'y a donc à remonter la liste des disparus de la région. Et là, les flics tombent sur un certain Serge Martz, signalé disparu la veille par sa compagne Cindy Sénoc. Serge Martz a donc été assassiné. C'est la PJ de Metz qui récupère le dossier. Et donc c'est à eux de faire le sale boulot, comme on dit. Annoncer à ses proches que Serge est mort. c'est-à-dire à sa mère, à ses filles aînées, nées d'un premier mariage, et à sa compagne Cindy, avec laquelle il était en pause. Ils la font venir au commissariat.
« Oh mon Dieu ! L'homme de ma vie ! Le père de mes enfants, mais c'est pas possible !»
Mademoiselle Sénoc, tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre. Alors vous pouvez sans doute nous aider à faire avancer l'enquête. Vous allez devoir tout nous raconter. Ne négligez rien, même si je comprends bien sûr que ça va pas être facile. Alors, Cindy Sénoc raconte sa vie avec Serge. Leur rencontre quand elle avait 18 ans et lui déjà 40 ans. Comment il a quitté sa femme pour elle.
C'est vrai que ces derniers temps, on vivait plus ensemble, mais c'était temporaire. On avait décidé de s'acheter une maison, de se marier, et même d'avoir un enfant. On s'aimait beaucoup, vous savez. Regardez.
Et là, elle sort son portable, et elle leur sort des kilomètres de preuves d'amour. Des centaines de SMS qu'elle échangeait avec Serge.
Je sais pas comment je vais pouvoir vivre sans lui.
En revanche, elle a une piste. Ces derniers temps, quelqu'un en voulait à Serge.
Il y a un type avec une cagoule. Il lui a cassé la gueule sur un parking il n'y a pas longtemps. Et il a jamais su qui c'était. Et puis une autre fois, il était en voiture et on l'a percuté par l'arrière. Et puis, il y a autre chose qu'il faut que je vous dise. Serge, il jouait au casino. Et comme ces derniers temps, il était au chômage, ben, je sais pas bien avec quel argent il jouait, quoi.
C'est une piste intéressante, ça. Le monde du jeu. Un type, par exemple, à qui il devait de l'argent et qui l'a buté. Et d'ailleurs, on retrouve la voiture de Serge Marx sur le parking du casino d'Amnéville. Ça colle. Un peu trop, peut-être. Mais la voiture, en tout cas, correspond aux clés retrouvées sur le bord de l'étang. Elle est ouverte et vide. Pas la moindre trace à l'intérieur. Là-dessus tombent les résultats de l'autopsie.
Bon, il s'est pas suicidé, hein, votre gars. Vous pouvez en être certain. Il y a pas d'eau dans ses poumons. Il est pas mort noyé. Il est mort étouffé. Attention, hein. Pas étranglé. Il y a aucune trace sur son cou. Étouffé. On lui a collé quelque chose sur la bouche.
Le légiste situe l'heure de sa mort entre 20h et minuit, le 26 mai. C'est-à-dire la veille du jour où sa compagne Cindy est venue signaler sa disparition au commissariat. Pour l'instant, on a donc cette piste des casinos, et c'est la seule. Alors allons-y. Cindy Sénoc leur a dit que Serge était un accro au jeu. D'abord, est-ce que c'est vrai? Quand les flics vont annoncer la sale nouvelle à la mère, elle relativise beaucoup.
Oh, ben, le casino, il y allait de temps en temps, mais pas souvent. Il était pas du tout accro. Et d'ailleurs, souvent, j'y allais avec lui.
Et d'où sortait-il l'argent pour jouer, puisqu'il était au chômage?
Oh, ben, en général, c'était mon argent qu'on jouait. Mais c'était pas des fortunes, hein. On achetait pour 100 euros de jetons. On gagnait, c'était bien. On perdait, on rentrait à la maison.
Ah, ça n'est plus du tout la même histoire. Elle en a peut-être un peu rajouté, la Cindy. Et si elle en a rajouté, pourquoi? Pourquoi invente-t-elle cette histoire de casino, cette addiction au jeu? Enfin, elle devait se douter que les policiers allaient vérifier, que son mensonge ne tiendrait pas. Mensonge qui, comme par hasard, colle avec le lieu où on a découvert la voiture. Comme par hasard. Voilà comment Cindy, la belle Cindy, passe d'un coup du statut de victime à celui de suspect. mois après la mort de Serge Martz, une femme se présente au commissariat. Elle s'appelle Annick. Elle a des révélations à faire.
Je vous en prie, madame. Asseyez-vous. Je vous écoute. Et d'abord, qui êtes-vous par rapport au protagoniste de l'enquête?
Je suis une amie de Cindy. Je la connais depuis qu'elle a 14 ans. On habitait à côté. Et donc on est restés pas très proches, quoi.
Et?
Eh ben c'est délicat à dire, mais voilà ce qui s'est passé.
Elle raconte que le soir de la mort de Serge Martz, vers 20h, Cindy lui a envoyé un drôle de SMS. « Je t'aime, ma petite mamounette. Je pense à toi. »
Et là, vous savez, Cindy, moi, je la connais par cœur. Hein. On se dit tout. Je me suis dit, elle a fait une bêtise. Elle a fait une bêtise et elle ne sait pas comment me le dire.
Alors, elle l'appelle et elle lui dit de passer.
Et elle a mis 4 jours à venir me voir. Et quand elle est arrivée, j'ai remarqué qu'elle était stressée, crispée, elle fumait cigarette sur cigarette. Et puis quand je lui ai parlé de la mort de Serge, elle voulait pas aborder le sujet. Et j'ai fini par lui dire, mais est-ce que c'est toi qui as fait ça? Elle a hoché la tête pour dire non. Et après je lui ai demandé, est-ce que tu sais qui a fait ça? Elle a encore fait non de la tête. Et après je lui ai dit, est-ce que c'est ton amant qui a fait ça? Et là, elle m'a fait oui.
Vous voulez dire qu'elle a avoué devant vous que son amant avait tué Serge Martz?
En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, oui. Et je lui ai dit, faut que t'ailles voir la police, pour leur dire. Je lui ai donné 3 jours. Elle a pas bougé. Et c'est pour ça que je suis là.
Sacré rebondissement. L'amant de Cindy Sénoc serait l'assassin.
Dites, vous pouvez me donner le nom de l'amant de Mademoiselle Sénoc?
Oui. Il s'appelle Robert.
Robert comment?
Robert Martz.
C'est le frère de Serge. Cindy Sénoc couche avec son beau-frère. Et ça serait donc lui qui aurait tué Serge. Dans la foulée, évidemment, Cindy Sénoc est à nouveau entendue. Et elle reconnaît qu'elle couche avec son beau-frère.
Et c'est lui? Enfin, c'est lui avec une cagoule? Qui un jour a cassé la gueule à Serge. Sur un parking.
Et bien convoquons ce Robert Martz.
Ouais, je suis l'amant de ma belle-sœur. Et oui, c'est moi qui est allé lui casser la gueule. À mon frère. Sur un parking. J'avais mis une cagoule, il m'a pas reconnu. Mais j'avais de bonnes raisons, hein. Cindy m'a dit que ce salopard l'a batté. J'ai voulu le mettre en garde, c'est tout. Mais je l'ai pas tué. J'ai pas tué mon frère, c'est juré. En revanche, je peux vous dire que Cindy, elle m'a demandé de le tuer. Et c'est là que j'ai décidé de la quitter. Après l'agression sur le parking, je voulais pas aller plus loin, quoi.
Vous voulez que je vous dise? Ce type a l'air de dire la vérité. Et les policiers de la PJ en sont là, à tenter de dénouer ce sac de nœuds, quand tombe un élément qui est souvent déterminant dans les enquêtes modernes. L'analyse de la téléphonie, et notamment du téléphone portable de Cindy Sénoc. Une fois de plus, la belle Cindy a menti. Elle a toujours dit que le soir du meurtre, elle était chez elle. Pas du tout! Le soir des faits, son portable a accroché à plusieurs reprises une borne située tout près de l'étang de Voipy où on a retrouvé le corps. Et elle n'était pas seule. Un autre téléphone a borné au même endroit, au même moment, téléphone avec lequel elle a communiqué ce soir-là. Et donc ils sont deux à avoir commis ce meurtre. En même temps, c'est logique, hein. Cindy pèse 45 kilos tout mouillé. Et Serge faisait dans les 100 kilos.
Il lui fallait au minimum un complice pour déplacer le corps. Et à qui appartient le deuxième téléphone portable? Pas à Robert Marx. Il appartient à un certain Jérémy Zimmer. Le 10 juin, 13 jours après l'assassinat de Serge Marx, Cindy Sénoc et Jérémy Zimmer sont placés tous les deux en garde à vue. Qui a tué? Elle ou lui? Face au flic qui l'interroge, Cindy Sénoc est un mur.
Je ne connais pas, moi, Jérémy Zimmer. Et je comprends pas ce que je fais là.
Coriace, comme d'habitude. Alors passons à Jérémy Zimmer. D'abord, qui est-il par rapport à Cindy?
Bah, je suis son amant. Voilà. Depuis presque un an. Mais je la connais depuis longtemps. Hein. Depuis tout petit.
En gros, il a remplacé Robert Marx. Pas le mort, hein. Le frère. Et ensuite, Jérémy Zimmer déroule un beau numéro de mythomane.
Bah, avant, j'étais militaire. J'étais commando dans les forces spéciales. Je suis allé à Djibouti, au Kosovo aussi. Mais bon, je peux rien dire, c'est secret défense, hein, vous comprenez? Un gars comme moi, ça tue un homme d'une main, je sais le faire en tout cas. Un commando, ça sait le faire. Et voilà, maintenant je suis à la retraite et je suis devenu vigile.
Oh le mytho! Il n'est pas plus militaire que moi, je suis archevêque. Peu importe en l'occurrence, mais c'est un menteur. Et ça compte pour la suite. Alors, monsieur Zimmer, si on en venait au fait?
Depuis des mois, Sidney, elle passait son temps à se plaindre, quoi. De ce qu'elle vivait en couple avec son Serge. Elle me disait qu'il la frappait tout le temps, qu'elle la violait aussi. Et moi, je la connaissais depuis que j'étais tout petit, quoi. Et forcément, je connaissais son histoire.
Et c'est quoi, son histoire?
Quand elle était petite, Cindy, elle a été abusée par son oncle. Et puis, à 15 ans, elle s'est enfuie avec un vieux, un type de 40 ans. Et le gars l'a mis sur le trottoir. Il lui a fait faire le tapin à la porte des Allemands à Metz. C'était un sale type, ce mec.
Et quel rapport ça a avec la mort de Serge Marx?
Je l'ai cru, quoi. Avec tout ce qu'elle avait vécu, j'ai cru que ça continuait. Que le sort s'acharnait sur elle, quoi. Et puis, il y a autre chose. Elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Et je me suis dit, l'autre fou, là, avec tous les nions qu'il lui met, elle va perdre son enfant.
Tout ça pour dire que c'est lui qui a tué Serge Marx. Et c'est lui aussi qui, une semaine avant, a percuté sa voiture par derrière.
Et vous voulez que je vous dise? Ce jour-là, quand j'étais dans la bagnole, j'avais Cindy au téléphone qui me disait « Allez! Allez, pousse-le dans le décor !»
Et d'après ce qu'il dit, c'est encore Cindy qui a servi d'appât pour faire venir Serge à l'étang de Voipy. Il lui reste à raconter en détail comment ça s'est passé. Le rendez-vous était fixé à 9h30 du soir. Serge arrive, il descend de voiture, Cindy lui signale sa présence par des appels de phare. Il s'approche de la voiture de Cindy, il veut ouvrir la portière. Elle ne lui ouvre pas. Elle est là, elle le regarde, mais elle ne lui ouvre pas.
Et c'est là que je lui ai sauté dessus. Il s'est défendu, hein. Ça a duré un bon bout de temps. Alors pour finir, je lui ai fait la prise de la sentinelle. C'est un geste de commando. Je lui ai mis les deux bras autour de la tête et j'ai serré, quoi. Jusqu'à ce qu'il étouffe.
Et Cindy Sénoc, pendant ce temps-là, où est-elle?
Elle est dans la voiture. Elle a mis ses écouteurs pour pas entendre.
Pour ne pas entendre les cris du père de ses deux enfants qui est en train de mourir. Voilà. Et après, il est allé jeter le corps dans l'étang. Et elle est allée garer la voiture sur le parking du casino d'Amnéville. Et Cindy, alors, dans le bureau d'à côté, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne bouge pas. Elle est toujours innocente.
Alors les policiers lui collent un à un tous les éléments qu'ils ont contre elle, sous le nez. Les confidences de sa copine Annick, son téléphone qui prouve qu'elle était sur place, et finalement les aveux de Jérémy. Et là, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle se couche, elle aussi. Elle reconnaît qu'elle a bien élaboré un plan pour éliminer son compagnon avec Jérémy Zimmer, qui était bien son amant. Reste à mesurer son rôle exact. Remonteuse de pendule. Ça vaut combien, ça, devant la cour d'assises? Remonteuse de pendule. Mais n'allons pas trop vite, l'enquête n'est pas terminée. D'ici le procès, il y a tout un tas de choses à vérifier. Par exemple, est-ce que Serge Mars était vraiment violent avec Cindy? Est-ce que c'est vrai qu'il l'a battée, qu'il l'a violée? Annick, la copine de Cindy, celle qui l'a dénoncée, dit que oui. Une fois, elle a fallu que je m'interpose. Et puis elle était couverte de bleu. Et pourtant, les policiers ont des doutes, de gros doutes. Parce que si on regarde par exemple les SMS que s'échangeaient Serge et Cindy, il y a que de l'amour là-dedans. Il y a beaucoup de tendresse et zéro violence. Les policiers ont l'impression puissante qu'elle a inventé toute cette histoire, qu'elle a manipulé Jérémy, et avant lui Robert, et sa copine Annick, que c'est une manipulatrice. Et on en a un bel exemple. Jérémy dit qu'elle était enceinte de lui, et qu'il a tué Serge pour protéger son enfant. Vous l'avez entendu, ça? Elle est interrogée là-dessus.
Mais oui, j'étais enceinte de Jérémy. Mais puis j'ai fait une fausse couche. Et j'ai perdu notre bébé.
Mais quelle menteuse! Il est stérile, Jérémy Zimmer. L'enquête révèle qu'il est stérile. Elle n'a jamais été enceinte de lui, jamais. Elle l'a manipulé. C'est une diabolique. Voilà la conclusion de l'enquête. Elle ira devant la cour d'assises avec lui. Mais le dossier n'est pas encore tout à fait bouclé. Il reste à organiser ce qu'on appelle une reconstitution sur les bords de l'étang de Voipy. C'est parfois formel, une reconstitution, et pas très utile, mais là, c'est indispensable. Parce qu'on veut savoir où elle est au moment où Jérémy Zimmer étouffe Serge Marx. Est-ce qu'elle est près? Est-ce qu'elle est loin? Est-ce qu'elle voit bien? La reconstitution a lieu le 28 juillet 2009. Ils sont là, tous les deux, Cindy et Jérémy. Elle est dans la voiture et lui près du cadavre. Et pour représenter la victime, on a mis un mannequin de 100 kilos. Et là, il y a un gros problème. Il y a un énorme problème, parce que Jérémy Zimmer, malgré ses gros bras, a beaucoup de mal à déplacer ce corps tout seul. Il le tire, il le traîne, il y a des broussailles, il y a des pierres. Quand il arrive au bord de l'eau, le mannequin est complètement déchiqueté. Or, le corps de Serge Marthe ne portait pas la moindre trace d'éraflure, pas la moindre blessure. Il n'a pas été traîné. Et donc, il n'a pas déplacé ce corps tout seul. Alors, est-ce qu'elle l'a aidé? Elle dit que non, et lui aussi. Donc, il y a quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'apparaît Michael, le frère de Cindy. Est-ce qu'il n'est pas venu donner un petit coup de main? On l'interroge, bien sûr.
Oh ben non, je suis jamais allé sur place, moi. J'étais à la maison, je gardais les gosses. Vous faites fausse route?
Ah bon? Il gardait les enfants? Les policiers vérifient, c'est un oncle qui gardait les enfants cette nuit-là. Il ment, Miguel. Il ment, c'est de famille, manifestement. Et le doute devient certitude quand l'ex-petite amie du frère vient voir spontanément la police.
Michael? Il m'a dit qu'il avait aidé à déplacer le corps.
Alors, après une valse hésitation, Michael Sénoc est bien obligé d'avouer à son tour sa participation au crime. Il a aidé à déplacer le corps. Mieux, il connaissait tout le plan. Il savait que Serge allait être assassiné. Il y a eu une réunion de préparation et il en était. La seule chose qui vient peut-être atténuer sa responsabilité, c'est qu'il a dit qu'il pensait que sa sœur n'irait pas jusqu'au bout. Mais enfin, il va néanmoins retrouver les trois autres dans le box de la cour d'assises. Le procès s'ouvre en janvier 2012 devant la cour d'assises de Metz. Et ils sont donc quatre dans le box. Jérémy Zimmer, qui est poursuivi pour assassinat et tentative d'assassinat, ça c'est le jour où il l'a percuté par l'arrière avec sa voiture. Cindy Sénoc est accusée de complicité d'assassinat. Son frère Michael Sénoc comparé pour non-dénonciation de crime et recel de cadavre. Et Robert Martz est accusé de violence avec arme pour avoir menacé son frère sur le parking. Et une grande partie des débats porte sur le rôle de Cindy Sénoc et sur sa personnalité. Et de nombreux témoins viennent raconter que petite, on l'appelait Cosette ou Cendrillon. Oui, oui, elle a eu une enfance malheureuse. Et les experts psychiatres pensent que c'est ça qui a fait d'elle une manipulatrice. Qu'elle a développé une personnalité borderline, comme on dit, qui l'a fait détruire les gens qu'elle aime. Ils disent qu'elle est perverse, qu'elle est excellente comédienne et qu'elle est donc extrêmement dangereuse. Et pourtant, dans le box, tout au long du procès, elle apparaît si douce, si féminine, si fragile. On a beaucoup de mal à penser qu'elle a commis les faits dont on l'accuse. Et pourtant, au moment du verdict, elle prend le max, 30 ans, plus que Jérémy, qui pourtant a fait le geste, lui prend 25 ans. Michael Sénoc est condamné à 2 ans et Robert Martz à 2 ans avec sursis. Robert Martz est le seul à ne pas faire appel. Les trois autres se retrouvent donc à nouveau devant la cour d'assises à Nancy en mai 2014. Et au final, rien ne change. 30 ans pour Cindy, 25 pour Jérémy, 2 ans pour Michael. La complice a pris plus que le tueur, et c'est assez rare. Et c'est une belle leçon. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas forcément mettre les mains dans le cambouis du crime pour être considéré comme le responsable d'un assassinat. Passionnante histoire. Je trouve que nous allons débriefer maintenant avec vous, Maître Dominique Rondu du barreau de Metz. Vous étiez dans ce dossier l'avocat de la maman de la victime, avocat donc oui. De la partie civile. Je me disais d'ailleurs que la position de votre cliente devait être terrible, parce que elle était victime, et puisqu'on avait tué son fils, mais son autre fils était sur le banc des accusés.
Oui, c'est exact, c'était très particulier. Mais il faut reconnaître que Robert Martz a fait un acte de contrition. Il a regretté son geste, évidemment. Il a laissé penser qu'il avait agi sous le coup d'une manipulatrice, Cindy Sénoc, sous le coup de la passion aussi, parce qu'il était profondément amoureux de Cindy. Et donc, par conséquent, au fur et à mesure du développement de l'instruction, Robert Martz, grâce à cet acte de contrition, je puis dire, s'est réconcilié avec sa mère. Donc, dans ces conditions, elle a réussi à absoudre son fils de ses erreurs et de cette culpabilité.
Est-ce que votre cliente avait, avant les faits, de la méfiance pour cette fille? Alors, vous allez me dire, beaucoup de belles-mères ont de méfiance pour leur belle-fille. Mais est-ce qu'elle sentait venir la chose? Est-ce qu'elle avait vu la dangerosité?
Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'elle a été assez, assez naïve pour penser que finalement, le couple se séparait, certes, mais je crois qu'elle était aussi un peu influencée par Serge, qui lui disait qu'il allait renouer les liens avec Cindy, qu'ils avaient deux enfants, qu'il fallait absolument... Il avait même mis le projet, d'avoir un troisième enfant. Donc, je pense que Olga Martz, la mère, pensait que peut-être le couple allait se réconcilier. Mais il y avait quand même un petit peu la méfiance habituelle d'une belle-mère
à l'égard de sa belle-fille. Mmh. Mmh. Ouais.
Est-ce que, finalement, le verdict colle à l'idée que votre cliente et vous-même vous faites du dossier? C'est-à-dire que Cindy Sénoc est responsable de tout ce malheur?
Oui, je crois que les jurés des deux cours d'assises, hein, qui ont rendu le même verdict, c'est-à-dire 30 ans de réclusion criminelle pour Cindy et seulement 25 ans pour l'auteur du crime, reflètent, alors vous disiez une manipulatrice, c'est vrai, c'est ce qui est ressorti du procès, mais plus qu'une manipulatrice, moi je dirais un esprit criminel machiavélique. Machiavélique parce que à plusieurs reprises, on voit ce côté calculateur, presque jouissif, en disant par exemple aux enquêteurs, quand elle signale pour la première fois la disparition de Serge, Cindy va dire « Et puis, vous savez, il a fait l'objet déjà de deux tentatives
oui.
de meurtre. Alors que c'est elle qui les a fomentées. Mais, voyez, pour indiquer cette piste aux enquêteurs, il faut avoir quand même un esprit machiavélique. Je pense qu'elle fait partie de ces criminels, de ces assassins qui ont fomenté leur acte, ont réfléchi à la situation, parce que c'est une femme, elle a en plus ce pouvoir de séduction, et elle a séduit, pour arriver à ses fins, Robert Mars, elle a séduit Jérémy Zimmer, pour arriver à ses fins, avec notamment cette histoire de qu'elle serait enceinte et qu'elle subissait les violences de Serge. Et donc tout ceci...
Et elle a séduit son frère
que... Oui, absolument. C'est donc un esprit criminel machiavélique.
Mais en même temps, pardon de le dire comme ça, mais elle est idiote, parce que prétendre qu'il est accro au jeu alors qu'il est facile de vérifier que ça n'est pas vrai, aller coller la voiture devant le casino, c'est d'une naïveté terrible, elle va se faire prendre, enfin, on le perçoit dès le début.
Vous avez raison, vous savez, souvent les criminels commettent énormément d'erreurs dans leurs actions, même préméditées, ce qui était évidemment le cas. C'est peut-être un défaut d'intelligence, ça c'est certain. Mais ça n'excuse pas cet esprit machiavélique malgré tout.
Mais est-ce que vous confirmez l'espèce de dichotomie qu'il y a dans le personnage et qui semble-t-il apparaît de manière assez criante au procès, que cette femme est assez séduisante, voire assez touchante, et que on a souvent du mal à imaginer qu'à côté de ça, elle est si manipulatrice et si perverse.
Oui, c'est exact. C'est tout à fait le reflet qu'elle a donné dans les deux procès de cour d'assises, où on avait une jeune femme fragile dans le box des accusés, alors qu'on s'attendait à quelqu'un qui aurait été vindicatif, qui aurait crié une ligne de défense, qui était d'ailleurs la sienne, mais qu'elle n'a pas véritablement imposée, à savoir qu'elle subissait des violences de Serge Mars, qui n'a pas été forcément démontrée, mais elle n'a pas insisté sur ces points-là. Elle était assez absente, je dirais presque, de son procès.
Selon vous, les psychiatres ont livré une explication, j'en ai fait état tout à l'heure. Selon vous, qu'est-ce qui fait que cette femme devient capable de faire tuer son mari et d'envoyer deux de ses amants, plus son frère, sur les bancs de la cour d'assises? Qu'est-ce qui l'a fait basculer? Comment elle est fabriquée? Qu'est-ce qui la rend manipulatrice? Son enfance?
Je pense que c'est vraisemblablement son enfance qui l'a placée dans un système hors société, hors règles de la société, dans des cas extrêmement difficiles. Parce que finalement, la question qui lui a été posée au procès était de lui dire « Mais est-ce qu'il n'était pas plus facile de divorcer ?» d'engager une procédure de divorce, de vous réfugier avec vos deux enfants, de faire, bon, peut-être obtenir à Serge Mars des droits de visite et d'hébergement. Et alors pourquoi l'avoir tué? Pourquoi avoir eu cet esprit pervers de tuer le père de vos deux enfants? Et là, il n'y a pas eu de réponse, bien évidemment. Mais je crois que ça provient d'un système de, comment dirais-je, de réaction
qui a été mis en place
à une situation.
C'est-à-dire que vous, vous qui êtes avocat de la partie civile, vous concevez que cette femme a un passé traumatique qui l'a rendue ce qu'elle est, quoi.
Oui, je le conçois volontiers parce que ce n'est pas un monstre, bien que la maman de Serge pensait plutôt vers ce qualificatif, ce qui est normal, elle réagit comme une mère. Mais je pense que Cindy Sénoc a un lourd passé qui explique, mais qui ne justifie pas, bien sûr, ses attitudes, ses réactions par rapport à un obstacle, à une difficulté, par rapport à quelque chose qu'il faut forcément éliminé. Éliminé physiquement. Pas éliminé par la justice, pas éliminé par un procès, d'une séparation, etc., etc. Non, il faut éliminer. Et cet obstacle, dit-elle, c'est Serge, parce que Serge lui a dit que s'ils se séparaient, eh bien, elle ne verrait pas ses enfants. Donc elle ne va pas chercher plus loin, elle va aller à l'élimination physique.
Je vous remercie beaucoup, Maître Rondu. Et au passage, d'ailleurs, vous disiez à l'instant pourquoi n'a-t-elle pas divorcé. C'est la question que je pose souvent dans les histoires que je raconte. Mais en vérité, bien si sûr. Les gens divorçaient, vous n'auriez pas de travail et moi non plus. Souvent. Souvent.
Oui, bien sûr.
Souvent. Merci infiniment.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.